Radio Foot International, Marie-Amélie Mott.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Foot. Au programme aujourd'hui, la sortie d'un documentaire très attendu sur Nicolas Anelka. L'ancien international français y raconte sa carrière et revient notamment sur le fiasco de Knysna pendant la Coupe du Monde 2010. Pourquoi a-t-il décidé de s'exprimer 10 ans après? Le verra-t-on un jour entraîner une équipe professionnelle? Que retenir de ce personnage si singulier? Nous serons en ligne avec Arnaud Ramsey qui a participé au documentaire. Iker Casillas à la retraite. Radio Foot revient aujourd'hui sur la carrière de cet immense gardien de but. 16 saisons au Real Madrid, double champion d'Europe et champion du monde en 2010 avec l'Espagne. Iker Casillas fait aujourd'hui partie des légendes du ballon rond. On en parlera avec nos consultants. Retour sur la Serie A 2019-2020 qui s'est achevée ce week-end. Thiago Immobile au sommet de son art. L'AC Milan relancé avec Zlatan Ibrahimovic tandis qu'en Antonio Conte pourrait quitter l'Inter cet été. Bilan du championnat italien avec notre correspondant à Turin, Matteo Cioffi. Et pour terminer, on parlera de la Ligue Europa qui reprend demain. Avec moi aujourd'hui, Naïm Moniol. Bonjour Naïm.
Salut Marie-Amélie, salut à tous.
Patrick Juillard est là également. Bonjour Patrick.
Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous.
Et puis Alejandro Valente complète le casting. Bonjour Effé.
Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous.
Allez Radio Foot, c'est parti.
Moi je suis footballeur. Voilà pour m'amuser.
Sans le savoir, Anelka est au centre d'une véritable bataille juridique.
Voilà, c'était la cible parfaite.
Nico, c'est pas un ange quand il a pas envie d'être un ange.
Encore une fois, ils m'ont mis une histoire sur le dos.
C'est pas un type qui dégoupille comme ça pour un oui, pour un non.
Knysna, c'est le plus gros fiasco médiatique.
Donc dans ces conditions, je démissionne.
C'est un moment que je n'oublierai jamais.
Moi, j'admire ça chez lui. Le bonhomme que c'est. Avant le sportif.
Et pour moi, il y a un monde entre ce que les gens pensent de Nico et Nico.
Vous aurez peut-être reconnu les voix de Thierry Henry, Emmanuel Petit ou encore Didier Drogba. Ils s'expriment tous dans le documentaire Anelka, l'incompris, réalisé par Franck Nataf, qui sort demain, mercredi 5 août, sur Netflix. Nicolas Anelka, 41 ans aujourd'hui, revient sur ses 19 saisons passées au plus haut niveau. Il a connu les sommets avec le PSG, le Real Madrid et Chelsea notamment, et des moments bien plus compliqués avec la Juve ou West Bromwich Albion par exemple. Anelka, c'était l'ancien grand espoir du football français dans les années 90, un attaquant rapide, efficace, d'une grande justesse technique. Mais son histoire avec l'équipe de France a toujours été mouvementée, c'est un euphémisme. Nicolas Anelka était au cœur de la crise de Knysna en Afrique du Sud pendant la Coupe du Monde 2010. Et c'est donc 10 ans après qu'il a décidé de s'exprimer en détail, peut-être on le verra sur le sujet. Nous sommes en ligne avec l'un des journalistes qui a participé au documentaire, Arnaud Ramsey, bonjour.
Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre dans Radio Foot. Vous connaissez bien Nicolas Anelka, vous avez collaboré avec lui sur l'écriture d'un livre en 2010 déjà, et vous avez donc participé à ce documentaire qui sort demain. Pourquoi a-t-il accepté de se livrer? Que veut-il raconter aujourd'hui?
En fait, moi j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Anelka quand il avait 15 ans et demi, qu'il était apprenti stagiaire au Paris Saint-Germain. Il avait déjà une sorte de... une foi en son destin, une timidité qui a souvent été assimilée à de l'arrogance et une sorte de prise de distance immédiate avec tout ce qui était entre guillemets le cirque médiatique. Donc pour s'exprimer, il a besoin d'être en confiance. Il a été en confiance avec Franck Nataf, vous l'avez dit, qui est le réalisateur du documentaire, qu'il a connu comme photographe aux Parisiens et à l'équipe. Et Franck l'a suivi depuis la fin de sa carrière en pente douce, d'abord à Shanghai et après à Mumbai en Inde, et il a accumulé de la matière, des heures d'interview, il a rencontré d'autres amis de Nicolas Anelka, comme le comédien Omar Sy, qui était en classe de 5e et 6e avec Nicolas Anelka, Thierry Henry, Patrice Evra, Emmanuel Petit ou Didier Drogba, qui a joué avec Anelka et à Shanghai et surtout à Chelsea. Et voilà, donc Anelka avait besoin d'être en confiance, il s'est dit qu'à presque 40 ans, maintenant il en a 41, il était temps de faire le point sur une carrière il voulait différente de celle des autres. Et à ce point de vue-là, c'est réussi. C'est rare d'avoir l'honneur d'un documentaire sur Netflix. Et en même cas, c'est des statistiques et un palmarès. Et puis, vous l'avez rappelé, des zones d'ombre, des coups de gueule, mais aussi une sorte d'incompréhension immédiate avec les médias qui servent un peu de courroie de transmission avec le grand public. Donc, il y a une sorte de malentendu Il n'a jamais tenté de percer parce qu'il partait du principe que les gens avaient une image de lui qui ne correspondait pas forcément à la réalité. Donc le film, c'était une occasion, non pas de se vendre parce qu'il agit toujours sans calcul, mais de se raconter un peu différemment. On voit aussi sa famille dans le film, sa femme, ses parents, ses frères ont été ses agents à une époque où il était extrêmement rare que les frères d'eux deviennent des agents. Aujourd'hui, on voit que Neymar et Mbappé, par exemple, travaillent en famille, c'est devenu monnaie courante. Donc Anelka, quelque part, a toujours voulu être une sorte de pionnier, un aventurier. Il s'est promis à partir très vite du centre de formation, en l'occurrence le PSG, pour aller à Arsenal. C'était l'un des premiers à signer en Chine à 30 ans à peine, alors qu'il était à Chelsea. Donc voilà, il a une carrière qui lui ressemble.
Alors Nicolas Anelka a déclaré dans Le Parisien aujourd'hui « Mon histoire, c'est celle d'un homme qui a refusé de faire comme tout le monde pour se faire intégrer. Il s'est toujours senti rejeté par le monde du foot et par les médias en général, Nicolas Anelka ?»
Oui, après, il ne faut pas s'arrêter aux médias. Après, moi, ce qui est important pour moi, qui le connaît bien et qui est un compagnon de l'équipe de France en tant que journaliste, c'est de voir qu'il a toujours été apprécié dans un groupe. Par exemple, Zidane, sur le terrain, même si c'est deux grands taiseux, ils se comprenaient instinctivement. Donc, que ce soit Thierry Henry, Robert Pires ou plein d'autres, il a toujours eu de très bons rapports avec les joueurs. C'est quelqu'un d'assez timide, alors quand on explique ça, ça peut paraître paradoxal, mais c'est une réalité. Après, il a toujours eu une sorte de problème, entre guillemets, avec l'autorité. Il était surclassé à Clairefontaine, parce qu'il a deux ans de moins. Henri est très aigué, mais il était à Clairefontaine, c'était le plus jeune. Il était à 13 ans, donc je me souviens d'une interview de Claude Dussault, qui était l'ancien patron de Clairefontaine, qui m'avait raconté qu'Anelka parfois pouvait casser des portes de rage. Donc c'est une colère, entre guillemets, rentrée, mais une certitude de réussir. Et puis voilà, donc les problèmes qu'il a pu avoir, c'était avec l'autorité incarnée par l'entraîneur. Ça pouvait être avec Jacques Santini, avec Del Bosque au Real Madrid pour une incompréhension, parfois avec Roger Lemaire à l'Euro qui soufflait le chaud et le froid, et évidemment avec Raymond Domenech, et c'est ce qu'il dit aussi dans Le Parisien, et pour l'avoir vécu, je sais que c'est vrai, c'est que j'avais fait, vous l'avez rappelé, un livre avec Nicolas Anelka juste avant le Mondial 2010, où il disait, enfin avec Raymond Domenech, j'ai un sélectionneur avec qui je peux partager des choses et parler.
Oui, parce que Anelka a eu une histoire contrariée avec l'équipe de France. La Coupe du Monde 2010, oui, c'était sa première. En 98, 2002 et 2006, il était très proche d'être sélectionné, mais finalement, il est resté sur le quai à chaque fois.
Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il voulait être différent des autres. Là, on va dire qu'il a réussi. Parce que la seule Coupe du Monde qu'il fait, il s'est fait exclure, ce qui est quand même pas banal pour un fiasco sportif et surtout moral pour moi, de toute cette équipe de France. Donc pour moi, le principal fautif, c'est Raymond Domenech, parce que c'est le manager. C'est à lui de prendre les choses en main et de ne pas laisser le navire sombrer. Mais vous l'avez rappelé, en 98, il était quand même extrêmement jeune, appelé en équipe de France par Aimé Jacquet. Sa première sélection est d'avril 98. Il a 18 ans et quelques, et quelques mois, il joue à Arsenal. Il a sa chance, il pense être dans la liste, et puis il est dans les fameux 28, donc il est écarté au dernier moment. En 2002, il espère que Roger Lemaire le sélectionne, et finalement, il prend Djibril Cissé. Et en 2006, il n'est pas pris. Djibril Cissé se blesse gravement, le pauvre, la veille du départ pour la Coupe du Monde. Je crois que dans son fond intérieur, il pense être rappelé au dernier moment par Domenech, qui finalement fait appel à Siné Govou. Donc, après trois échecs, entre guillemets, il est enfin rappelé en 2010 où il est indiscutablement titulaire, mais l'un des problèmes d'Anelka, c'est que, si vous voulez, quand il joue Arsenal, c'était une sorte de flèche qui allait droit au but, lancée par Overmars ou Emmanuel Petit, mais son jeu s'était développé et lui, il avait envie de d'être une sorte de 9,5, d'être un petit peu comme à Chelsea, de tourner autour de l'attaquant de pointe. C'est d'ailleurs ce qu'il avait exprimé à Raymond Domenech, quand Domenech était venu lui rendre visite à Londres juste avant le Mondial. D'où l'incompréhension, si vous voulez, c'est que Anelka était dans le système de Domenech en équipe de France en Afrique du Sud, aligné seul en pointe. Et donc on lui a reproché de décrocher, ce qui n'est pas faux, et il aurait voulu jouer à deux attaquants. C'est une sorte d'incompréhension qui s'est mal terminée.
Oui, qui s'est mal terminé. Juste un point rapidement, Philippe Juard, Naïmoniol. Patrick Juard, pardon, excusez-moi.
C'est grave.
Nos plus jeunes auditeurs n'ont peut-être pas en tête ce qui s'est passé à Nice-Nain en 2010. Est-ce que vous pouvez le rappeler?
Vous voulez que je rappelle ce qu'il y avait écrit à la une de l'équipe?
Non,
exactement.
Très rapidement.
En gros, ce qu'a expliqué Nicolas Anelka dans cette interview du Parisien dont vous avez parlé, c'est que il s'est engueulé dans le vestiaire avec son entraîneur, sélectionneur, comme ça arrive, dit-il, tous les vestiaires du monde et ça a pris des grosses proportions. Et puis il lui a dit en gros, ben écoute, débrouille-toi avec ton équipe de M, 4 petits points. Voilà, c'est donc ensuite ça a pris les proportions que ça a pris. Donc c'est exactement le personnage. Et moi j'ai une question à poser à Arnaud. Nicolas Anelka a émergé à la fin des années 90 à une époque où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et où il n'y avait pas encore d'autres prismes que les médias officiels pour communiquer. Est-ce que vous pensez, Arnaud, que s'il avait émergé un peu plus tard à l'époque des réseaux sociaux, il aurait pu mieux gérer son image ?
Peut-être. Après, je crois que gérer son image, pour moi, c'est pas un gros mot, mais ça donne l'impression d'un calcul. Et Anelka, en quelque part, entre guillemets, c'est l'anti-modèle de communication, c'est l'anti-Mbappé, je parle dans l'approche globale. Donc c'est quelqu'un qui fort de sa forte personnalité, de son caractère, a toujours voulu faire les choses à sa manière, ne pas se laisser dicter les choix, ne pas poser pour les médias, ne pas se mettre en scène quelque part. Donc ça lui était reproché. Sans doute qu'il se sera adapté, c'est son caractère, si vous voulez. Donc c'est aussi qui fait qu'il a une aussi belle et longue carrière, quoi qu'on puisse penser de lui. Il a quand même émergé extrêmement jeune et il a été rarement blessé. Il a terminé à 35 ans en Inde, donc c'est pas banal. Peut-être, c'est difficile. En tout cas, il est, je crois, quelque part assez fier d'avoir été une sorte de pionnier dans beaucoup de choses, c'est-à-dire le premier à partir de France et ne pas... Parce qu'en fait, on peut le rappeler, c'est-à-dire qu'à l'époque, moi je m'en souviens, c'est là où je l'ai connu, c'est que la direction du PSG lui dit, voilà, tu es formé au PSG, tu restes chez nous pendant 5 ans. Et déjà, Anelka a fait du Anelka, il n'avait pas voulu. Ricardo, qui était l'entraîneur, l'avait mis sur le banc des remplaçants. Et Wenger, très malin et bien renseigné, le manager d'Arsenal, lui a fait la cour et l'a fait venir pour, à l'époque, 5 millions de francs, ce qui est une broutille, sachant qu'il a été vendu 220 millions de francs quelques mois plus tard, enfin quelques années plus tard, au Real Madrid. Donc c'est aussi ça, Anelka. Après les réseaux sociaux, c'est difficile de se projeter, mais même encore aujourd'hui où tout le monde est dessus, lui, il y est extrêmement peu. Il n'a pas de compte Twitter, il n'a pas de compte Facebook. C'est lui-même qui gère son compte Instagram et il publie extrêmement peu de choses. Donc,
Naïm Ounioul, vous avez une question pour Arnaud Ramsey ?
Question, non, pas spécialement, mais disons ce qui me gêne un peu dans ce que dit Arnaud. À moins que j'ai pas compris, mais ce qui me gêne un peu et dans ce que dit Arnaud et dans ce qui a priori va être le documentaire L'Incompris, c'est qu'on a l'impression que Nicolas est une victime en fait de tout ça. Alors Nicolas Anelka, il a énormément de talent, il est très très fort, personne ne dira jamais le contraire, mais je pense que c'est aussi quelqu'un qui a gâché sa carrière et qui l'a gâché parce qu'il a créé un personnage, une image qui lui a explosé au visage. Alors certains s'en sont servis pour lui taper dessus gratuitement dans les médias, certains s'en sont servis pour lui faire du mal, dans l'affaire avec Domenech, avec Santini, dans son histoire un peu contrariée avec le Real, avec le PSG. Je ne dis pas qu'il a tous les torts, mais ce que je dis en revanche, c'est que contrairement à d'autres, si on veut faire des parallèles un peu, notamment avec Benzema, j'ai l'impression que lui, il a construit un personnage qu'il a pas maîtrisé, qui lui a pété au visage, et derrière il a dit « oui mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres ». Quand on dit « les médias lui ont machin », faut pas oublier qu'un... À la fin des années 90, enfin même au milieu des années 90, on n'a pas la précocité d'Anelka, on la connaît pas. Tu faisais un parallèle, Arnaud, avec Zidane. Zidane, c'est un joueur extraordinaire, mais il a une progression normale, linéaire. Cannes, Bordeaux, la Juve, on l'a vu arriver, on l'a vu grandir. Anelka, il est arrivé très fort tout de suite. Aujourd'hui, des mecs comme ça, vous en avez 4 par an. On se rend même plus compte. À l'époque, ça n'existe pas, c'est le premier. Et ça, les médias aiment. Et les médias, de base, n'ont aucune raison de lui taper dessus ou d'être contre lui ou de... Et le problème, c'est que lui, il a construit une image qu'il a pas maîtrisée. Je crois pas qu'il soit si arrogant que ça. On a construit l'image du mec de banlieue, un peu arrogant, un peu machin. Il a grandi à Trappes, mais c'est pas non plus, c'est la classe moyenne, Anelka. C'est pas un mec de cité, comme on a vu, débarquer d'autres. Et il a vraiment gâché beaucoup de choses. Et je pense que je ne sais pas ce que ce documentaire va diffuser. Je vais vous dire la vérité. Moi, je suis même pas très, très envie de le regarder. Ça m'intéresse pas, en fait. Non, mais si, je suis honnête, ça m'intéresse pas, ce genre de documentaire. Parce que je pense que pour beaucoup, et j'en fais partie, Anelka sera le mec qui a gâché sa carrière, qui a gâché son talent, et qui de l'autre côté s'est fait taper dessus un peu gratuitement parce qu'il représentait quelque chose qu'en France on n'aime pas. C'est-à-dire le type un peu basané qui ne respecte pas l'autorité. Je pense que Anelka est malheureusement à la croisée de ces deux facteurs. C'est dommage pour lui, tant pis pour lui, mais je n'aime pas, enfin c'est pas à toi je reproche Arnaud, évidemment, mais il y a toujours un côté un peu victimaire avec Anelka, on lui est tombé dessus gratuitement. pas que.
Alors, juste un mot quand même pour rappeler son palmarès à Nicolas Anelka. On va parler un tout petit peu du footballeur. Voilà, il a été champion d'Europe avec la France en 2000, évidemment. Deux Ligues des Champions, une avec le Real et une avec Chelsea. Deux titres de champion d'Angleterre aussi avec Arsenal puis Chelsea. J'en oublie, sacré palmarès quand même. Messieurs, si vous deviez citer un souvenir de Nicolas Anelka sur un terrain de foot, qu'est-ce que ce serait ?
Le doublé à Wembley.
Voilà, pareil. Ouais. On l'a dit tous en cœur. Ouais. Je pense qu'il y a une unanimité dans le studio. C'est la fulgurance de ce joueur, ce jour-là, cette révélation incroyable qui, encore plus exceptionnelle à nos yeux à l'époque que celle de Henry ou Trezeguet quelques mois avant. Là, c'est la révélation majuscule.
Oui,
voilà.
Il n'avait même pas 20 ans.
C'est une émergence qui nous explose au visage et qui nous éclabousse de sa classe d'un seul coup. Et on se dit, mais voilà, la France a trouvé son avant-centre pour 10 ans. Alors évidemment, il y avait Trezeguet, il y avait Thierry Henry dans un registre un peu différent. Mais rappelons qu'à l'époque, Thierry Henry n'était pas au mieux en club. Et que Trezeguet, bon, c'est un joueur plus timide dans sa personnalité. Donc l'arrivée d'Anelka qui a tout de suite pris la lumière et ce jour-là qui a mis ce doublé exceptionnel sur une pelouse mythique parmi les pelouses mythiques, c'est-à-dire Wembley. Bon, on s'est dit à l'époque qu'on avait trouvé le Graal des attaquants modernes.
Et c'est pour ça, non mais je suis d'accord, et c'est pour ça que l'histoire, le public français aura toujours une mauvaise image d'Anelka. C'est que je pense que le public en général, le public français n'aime pas le gâchis. Anelka, Ribéry, Benzema, chacun à leur style, c'est du gâchis parce que c'est un talent qu'on voit finalement très peu, ou qu'on voyait finalement très peu à l'époque, où ça n'existait pas, on n'était pas prêt pour un mec comme ça. Et le voir sa trajectoire sportive décliner parce que vous avez cité les clubs dans lesquels il a joué, ce qu'il a gagné. Oui, mais il a pas une part très active finalement dans tout ça. C'est pas un mec qui aura fait des saisons pleines et qui aura vraiment brillé.
Donc c'est pour ça que pour moi la comparaison avec Benzema et Ribéry ne tient pas. Alors il y a une part de gâchis
sur l'aspect humain.
En équipe de France pour Benzema et Ribéry, mais en club, la carrière de Benzema et Ribéry en club est à milieu au-dessus de celle d'Anelka.
Humain, je te parle sur l'aspect humain, sur l'image renvoyée au public.
Oui, certes. Sur l'image renvoyée au public. Sur la carrière, on ne peut pas mettre sur le même plan. On est plus proche de Nasri pour Anelka.
Sportivement, il aura quand même finalement très peu pesé dans les équipes dans lesquelles il a joué. Et c'est dommage parce que je le dis, je le répète, il avait peut-être plus de talent que les autres au départ. Et malheureusement, il a payé ça.
Très rapidement, Arnaud, dans le Parisien aujourd'hui, Anelka affirme être en train de passer ses diplômes pour devenir entraîneur. C'est la future étape de sa carrière?
Oui, alors juste, je ne vais pas m'éterniser, puis je ne suis pas l'avocat d'Anelka, mais on peut lui reprocher plein de choses. Il a toujours accepté, et je pense vraiment qu'il est dans l'anti-construction d'un personnage. Il demandait qu'à être aimé, il n'a pas forcément été aimé et compris. Il n'a pas cherché à corriger le tir, soit. Mais je ne pense pas qu'il soit dans la manipulation et dans la création d'un personnage. Il est vraiment comme il est. Et après, oui, il a 41 ans, il s'est pas rendu compte, mais le foot est sa passion, c'est ce qu'il connaît le mieux, et il est en train de passer ses diplômes d'entraîneur, il espère avoir sa chance. Il a été, on l'oublie un peu, c'est des expériences mineures, hein, mais que ce soit à Shanghai, en Chine et à Mumbai en Inde, il a été entraîneur-joueur. Donc il a un petit peu d'expérience, il est en train de passer ses diplômes. On l'oublie aussi, il a donné un petit coup de main aux attaquants du centre de formation de Lille la saison dernière. Donc il est plutôt modeste, ça peut paraître surprenant venant de lui, mais il est comme ça. Donc il va apprendre, je pense qu'il a le bon contact avec les jeunes. Est-ce qu'il aura sa chance sur ce haut niveau, je ne sais pas, mais a priori, c'est la carrière dans laquelle...
Enfin, ce sera étonnant quand même de le voir à un entraîneur, lui, qui a tant bataillé avec les entraîneurs qui l'ont connu.
Vous avez raison, Alejandro. Après, on mûrit, il a 41 ans, et encore une fois, dans l'interview du Parisien, il n'accable pas Domenech. Il n'a jamais dit que c'est de la faute de tous les autres. Hein. Évidemment que noir, musulman, fier, il a pu prêter le flanc à la critique, et parfois ça a été parfaitement justifié, que ce soit pour des gestes avec West Bromwich ou des attitudes à l'extra, mais voilà, je pense que on peut avoir quelques casseroles et être un bon entraîneur. Vous savez, il y a plein d'entraîneurs ou plein de joueurs qui ne s'entendaient pas avec leur coach, mais qui sont devenus des grands entraîneurs. Bon, donc, je ne sais pas si ce sera un grand entraîneur, et qui aurait misé sur Zidane, qu'on n'entendait jamais, qui devient le meilleur entraîneur peut-être du monde aujourd'hui. Voilà, c'est tout le destin qu'on peut souhaiter à Anelka.
Bon, en tout cas, on regardera ou pas, c'est selon ce documentaire Anelka l'Insoumis, réalisé par Franck Nataf. On va vous libérer, Arnaud Ramsey. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. À bientôt dans Radio Foot.
À bientôt, bonne émission.
Ciao.
Allez, maintenant, un petit crochet par l'Espagne.
beautiful save from Iker Casillas.
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 Iker Casillas.
Paró Iker. Paró Iker.
Iker Casillas ha salvado posiblemente el 1-0 esta vez.
Right side, Casillas.
Para Arcisi. ¡Qué paradón de Casillas!
A la grande parada de Casillas.
Iker Casillas, 39 ans, a donc officialisé sa retraite sur Twitter. Aujourd'hui est à la fois l'un des jours les plus importants et les plus difficiles de ma vie sportive. Le moment de dire au revoir est arrivé. Au revoir après une carrière exceptionnelle. 22 titres en club, 5 fois champion d'Espagne avec le Real Madrid, 3 Ligues des Champions, 2 Coupes du Roi, entre autres. Avec le FC Porto, il a été 2 fois champion du Portugal. Et puis avec la Roja, évidemment, champion d'Europe en 2008 et 2012, champion du monde en 2010. Casillas était capitaine de la sélection espagnole à ce moment-là. Réfé, c'est très difficile d'être exhaustif sur l'immense carrière d'Iker Casillas. Est-ce que c'est toujours une icône au Real Madrid et en Espagne plus généralement?
Oui, sans doute, même si c'est vrai que ces dernières années, c'est démêlé avec Mourinho, l'hostilité d'une partie du public du Real Madrid, l'élimination un peu honteuse de l'Espagne à la Coupe du Monde 2014. En 2014, etc., ont un peu terni son image et la fin de sa carrière. Je pense qu'aujourd'hui, il reviendra sans doute à Madrid par la grande porte. Il a réussi quand même une formidable carrière. Il n'a pas été remplacé. En tout cas, en équipe d'Espagne, il n'y a pas un gardien qui ait pu se comparer à lui depuis son départ. Et je pense que son image des capitaines dans cet incroyable triplé réussi par l'équipe d'Espagne va marquer quand même l'histoire du football espagnol.
Ouais, 167 sélections avec l'Espagne, seul Sergio Ramos fait mieux. Selon vous, est-ce que ça a été le meilleur gardien du monde à la fin des années 2000-2010?
Ça a été avec Buffon le meilleur gardien de cette génération-là. J'ai du mal un petit peu à les départager, mais ils arrivent au top niveau à peu près au même moment. Buffon a quelques années de plus. C'est pas exactement le même profil, mais il y a beaucoup de points communs. C'est deux joueurs qui sont devenus le gardien emblématique d'un des plus grands clubs du monde, chacun de son côté. Et Casillas, il n'est pas resté 6 ou 7 ans au Real Madrid. Il est resté presque 16 ans, presque 17, ce qui est considérable. Et il est surtout devenu le gardien numéro 1 d'un club comme le Real Madrid à moins de 20 ans. On se rappelle de ce match qui est un petit peu le match tournant pour lui. C'est la finale de la Ligue des Champions en 2000 qui opposait le Real Madrid au FC Valence. C'était au Stade de France. Et il sort, le gardien César Sanchez se blesse un peu après l'heure de jeu. Casillas rentre et il fait une fin de match absolument exceptionnelle. C'était pas... Est-ce que je me trompe d'ailleurs de finale, non?
Oui, je pense que
c'est contre Leverkusen, plutôt. Ouais. C'est en 2002 contre Leverkusen. Il remplace César Sanchez qui s'est blessé. Il fait une fin de match exceptionnelle avec 4 parades déterminantes.
Par contre, il avait joué en 2000 aussi.
Et il gagne 2-1. Mais il avait reperdu un peu sa place ensuite. Donc c'est pour ça que j'ai un peu confondu les finales. Mais pour moi, c'est le gardien majuscule. Et puis il avait une particularité pour un gardien qui a autant marqué son temps, c'est qu'il n'était pas très grand de taille.
1m82.
Et ça, je trouvais qu'il avait un côté un peu félin, un côté bondissant que n'avait peut-être pas un Buffon ou aujourd'hui un Neuer.
Emmanuel.
Casillas a une particularité, c'est qu'il a été le meilleur gardien du monde et très certainement le meilleur gardien d'Espagne en ayant finalement une carrière très, très compliquée. Parce que c'est vrai qu'il a été titulaire très vite au Real Madrid, mais il a très vite perdu sa place. Faut pas oublier que c'est le gardien du Real des années 2000, enfin de la grande partie des années 2000, c'est-à-dire qu'il ne gagne rien, qui se fait éliminer régulièrement en huitième de finale de Ligue des Champions. Avant d'être le gardien de l'Espagne qui gagne, ça a été aussi le gardien de l'Espagne qui décevait. Et il était aussi souvent critiqué. Dans les années 2010, quand il perd sa place sous Mourinho, Réfé l'a rappelé, il a raison de le dire qu'il faisait pas l'unanimité parmi les supporters espagnols. Et malgré tout, son talent... Sa personnalité lui a toujours permis de s'en sortir plus ou moins par le haut, parce qu'aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'il est en retraite, je pense que vous ne trouverez pas un Espagnol pour dire que ça n'a pas été le meilleur gardien du pays et qu'ils ne lui doivent pas quelque chose dans tout ce qu'a gagné le Real et l'Espagne.
Même les supporters de Barcelone l'aimaient.
Bien sûr.
C'était rare pour un joueur.
Il a eu une carrière. Autant Patrick faisait une comparaison avec Buffon. C'est vrai que la Juve n'a pas tout bien fait avec Buffon. Mais Buffon, il a quand même eu une trajectoire un peu plus linéaire. C'est son passage à la Juve est quand même un petit peu plus souverain.
Et puis il est arrivé après Parme à la Juve.
Et puis il était un petit peu plus souverain quand même. Casillas, c'est quelqu'un qui a qui était très très fort, qui faisait partie des meilleurs gardiens, qui était le meilleur gardien, mais qui a toujours eu une trajectoire de carrière un peu chaotique, contrairement à certains gardiens qui restent 10-15 ans dans un club parce que ça, c'est un long fleuve tranquille, entre guillemets. Ça n'a pas été le cas pour lui.
Moi je trouve que vous parliez de l'unanimité, du fait qu'il était aussi apprécié par les supporters du Barça, c'est un peu le pendant de Iniesta, qui lui aussi était respecté par ceux du Real, alors que par exemple un joueur comme Ramos est un joueur extrêmement clivant et détesté par les supporters blaugrana. Donc Casillas aussi, c'est une, aujourd'hui, vu surtout les dissensions qu'il y a en Espagne depuis quelques années, c'est d'autant plus méritoire de sa part d'avoir fait cette unanimité autour de lui. Donc c'est aussi pour ça, je pense, qu'il va marquer durablement son temps.
Alors avant de parler de son avenir, écoutez la réaction du président du Real Madrid, de Florentino Pérez, après l'annonce de sa retraite.
C'est uno de los grandes símbolos del Real Madrid.
C'est l'un des symboles du Real Madrid. Aujourd'hui, Iker Casillas se retire comme footballeur professionnel. Après avoir, entre autres, contribué à la légende du Real Madrid, Iker représente les valeurs du Real Madrid. Si ce club est l'un des plus admirés dans le monde, c'est grâce à des joueurs comme Iker. Avec son engagement, son travail, son humilité, il a conquis le cœur des supporters, mais aussi le respect de ses rivaux. Iker sait qu'il sera toujours à la maison ici.
Iker sabe que esta es y será siempre su casa.
Donc Iker Casillas est conseiller de Florentino Pérez depuis cet été. Quel avenir est-ce qu'il pourrait avoir au sein du Real ?
Oh, je pense qu'un avenir à la Butragueño. Il va intégrer sans doute la sphère dirigeante du Real Madrid. Ce faisant, Florentino Pérez fait une fleur au président de la Fédération espagnole, puisque Casillas avait était tenté de briguer un peu sa place. Donc du coup, en le sortant du circuit, il va gagner la bienveillance quand même de Monsieur Rubiales, ce qui est toujours utile.
Officiellement, il s'était retiré en raison du contexte social et sanitaire très tendu. Exactement. Il avait plus à cœur.
Il y a peut-être un peu de ça. En tout cas, Florentino Pérez fait d'une pierre deux coups et c'est plutôt bien joué.
Mais c'est plutôt intelligent politiquement de la part de Florentino Pérez de faire revenir tous les anciens. Parce qu'il y a Morientes, il y a Raoul, il me semble aussi qu'il y a Guti chez les plus jeunes encore.
Absolument.
Donc, il est en train de récupérer toutes les figures marquantes du club des années 90, début 2000, en tout cas première moitié 2000. C'est plutôt intelligent ce qu'il fait, parce que ça reste quand même quelqu'un.
Sans oublier Zidane.
Qui compte, hein. Plus Zidane, évidemment. Bon, Zidane, on le voit sur le banc. Les autres, ils sont plus en retrait, quoi.
Bon, Réfé, je vais aussi vous libérer maintenant. Merci.
Vous rejoignez le Real Madrid aussi ?
Oui, tout de suite.
Oh là là. D'ailleurs, il faut dire aux auditeurs qu'aujourd'hui, le Réfé est en couleur merengue à l'antenne. Oui. On ne le voit pas parce que ce n'est pas filmé aujourd'hui. Mais bientôt un transfert ?
Les images seront envoyées à Barcelone TV quand même.
Bon, les auditeurs le verront vendredi dans le Café des Sports.
Merci, Marie-Amélie.
Allez, on part en Italie maintenant.
Marusic per Immobile che segna il gol.
Giro Immobile pour le record, 36e but en championnat pour Giro Immobile.
Ibra, attenzione, Ibra, gol!
Zlatan Ibrahimovic, 10e but cette saison et quelle frappe encore pure, limpide du géant suédois.
Zlatan Ibrahimovic!
Ashley Young, la frappe! Elle est magnifique cette frappe d'Ashley Young! Le succès d'Antonio Conte de l'Inter Milan aujourd'hui sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, 2-0.
La Serie A version 2019-2020 a donc rendu son verdict ce week-end. Il n'y avait plus beaucoup de suspense, on en avait parlé la semaine dernière dans Radio Foot. La Juve a remporté son 9e Scudetto d'affilée, un point devant l'Inter Milan d'Antonio Conte, on en parlera un peu plus tard. La révélation de la saison, l'Atalanta Bergame complète le podium à égalité de points avec la Lazio Rome 4e. Et en bas, ce sont Lecce, Brescia et Spal qui descendent en série B. Tom Rossi du service des sports nous a rejoint pour cette deuxième partie d'émission. Bonjour Tom.
Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous.
Salut Tom.
Et puis, nous sommes en ligne avec notre correspondant à Milan et non pas à Turin, comme je l'ai dit dans l'introduction. Je me suis trompée, Matteo Cioffi. Bonjour Matteo.
Bonjour Marie-Amélie.
Alors je voudrais qu'on commence ce bilan italien en parlant du meilleur buteur du championnat, Ciro Immobile. L'attaquant de la Lazio Rome a réalisé une saison extraordinaire, 36 buts en Serie A. C'est un record et ce n'était plus arrivé depuis 2015 et Gonzalo Higuain avec le Napoli.
Oui, en effet, 36 buts qui lui ont permis de s'emparer du soulier d'or. C'est le troisième Italien à avoir conquis ce prix après Luca Toni et Francesco Totti. Il faut aussi ajouter que c'est la troisième fois que Thierry Immobile gagne le classement du meilleur buteur de la Serie A. C'était arrivé dans la saison 2013-2014 et 2017-2018. Donc pour Immobile, 30 ans, c'est la consécration d'une carrière qui a rejoint cette année sans plus haut sommet, mais qui dans le passé a connu aussi un moment moins facile comme ce passage à vide en 2014 au Borussia de Dortmund. Là, il avait joué 24 rencontres et avait réalisé seulement 3 buts. Il n'y avait pas eu vraiment grand feeling avec Jürgen Klopp. Cette expérience en Allemagne, elle a beaucoup démoralisé, mais il a su effacer ce mauvais souvenir et se relancer aussi grâce au technicien Simone Inzaghi, qui a toujours cru en lui en valorisant son instinct de buteur. Faut quand même dire que le premier coach à miser sur Thierry Immobile a été Zdeněk Zeman, qui était à Pescara. En série B, saison 2011-2012, là, Immobile avait marqué 37 buts. Et à son côté, il y avait un certain Marco Verratti et un certain Lorenzo Insigne.
Naïmoniol, ouais. Thierry Immobile a inscrit 14 pénaltys cette saison. Est-ce que pour vous, ça nuance
Pas du tout.
Pas du tout.
Absolument pas. Est-ce que vous en marquez combien des pénaltys, vos parents? C'est très très dur de marquer des pénaltys, et surtout en Italie, il y a de très très bons gardiens sur la spécialité. Immobile, cette saison, ça a été the right man at the right place. C'est-à-dire que, comme l'a dit Matteo, il a été cette saison l'attaquant qu'on pensait qu'il serait il y a 8 ans. C'est-à-dire dans la lignée des grands attaquants italiens, des Inzaghi, c'est un petit peu perdu entre temps. Moi, je pense que quand il est bien dans sa tête, bien dans son corps, pas blessé, c'est une gâchette incroyable. Autant je pense que c'est un garçon qui ne s'imposera pas partout, et j'espère pour lui qu'il va rester le plus longtemps possible et à la Lazio et avec Inzaghi, parce qu'il a trouvé quelqu'un qui le comprend et ça lui réussit plutôt bien.
Oui, je confirme, et les chiffres le prouvent, puisqu'il en est à 126 buts en 179 matchs, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée à la Lazio. Donc c'est une régularité, un ratio exceptionnel, et surtout cette saison. Bon, c'est sa meilleure saison, bien sûr. Comparé à Inzaghi, oui, dans le sens où c'est un pur finisseur, mais il a quand même un registre un petit peu plus large que le Pippo Inzaghi, qui était un pur chasseur de but, joueur à la limite du hors-jeu et rien d'autre. Immobile peut jouer un peu plus en profondeur quand même, mais c'est vrai que ses expatriations n'ont pas été réussies. Alors Matteo nous parlait de Dortmund, au FC Séville non plus, c'était pas une franche réussite. Donc c'est quelqu'un qui est fait pour ce championnat, et ça tombe bien pour lui puisque le championnat est de plus en plus disputé et de plus en plus spectaculaire. Et bon, la saison est sans doute depuis plusieurs années la meilleure saison de Serie A qu'on ait pu voir, malgré la coupure, malgré le fait que l'Italie ait malheureusement été très touchée par le coronavirus. Malgré tout ça, même ce qu'on appelle le restart, pour parler français, a été plutôt intéressant et riche en suspense. Pas trop pour le titre, mais pour les places d'honneur et tout ça. Donc même pour la relégation, il y a eu beaucoup, jusqu'à la dernière journée, c'était incertain entre Lecce et le Genoa. Donc tout ça est prometteur pour la suite de ce championnat qui était un petit peu tombé au début des années 2010 dans un certain ronron, un certain ennui.
Ouais, pour en revenir juste un instant sur Thierry Immobile, Matteo, l'opinion publique italienne a toujours été assez critique et a toujours émis pas mal de doutes à son égard, même lorsqu'il était très performant.
Bah oui, Marie-Amélie, parce que Thierry Immobile, c'est un impitoyable attaquant en championnat lorsque il joue avec la Lazio, mais ça change lorsque il a le dossier de la nationale, car là les choses vont moins bien, car avec la squadra azzurra, il a réalisé 10 buts en 39 matchs, c'est un bilan un peu maigre, donc de lui on attend beaucoup plus. Sinon, il y aura toujours cette blague qui circule à son propos et qui dit: avec la squadra azzurra, il ne faut pas l'appeler Immobile, mais Immobile.
Est-ce qu'il va rester Lazio la saison prochaine?
Moi, je pense que oui, ce serait une folie totale de se débarrasser d'un attaquant qui a ce palmarès, qui a fêté cette année, ça vous l'avez dit, sa meilleure saison depuis toujours. Et je crois que Lotito va faire tout pour s'assurer ce jour, au moins pour deux ou trois autres saisons, certainement.
Alors du côté du Milan AC, il y a un joueur qu'on pensait sur le départ, mais qui pourrait rester finalement. Je parle bien sûr de Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois est revenu en janvier au club et il a été l'un des artisans de la très bonne deuxième partie de saison des Rossoneri, Matteo.
Oui, c'est une saison particulière, celle des Rossoneri. Un début de championnat catastrophique. Et puis souvent, là, une lumière est apparue sur l'équipe. Lumière, vous l'avez dit, nommée Zlatan Ibrahimovic, car depuis son retour au club, les choses ont pris toute autre direction. L'AC Milan serait champion d'Italie dans ce petit championnat après le confinement. Hein. Ça aussi, c'est à mon avis quelque chose sur laquelle il faut réfléchir. Le Suédois, à 38 ans, a donc su renoncer tous ses coéquipiers sur le terrain et même en dehors. Mais surtout, il a montré d'être encore un joueur de très grand niveau. 10 buts pour lui en 18 rencontres disputées en championnat. Et ce nombre de réalisations lui permet de devenir le plus vieux joueur en Serie A, voire marqué 10 buts. Tout cela à 38 ans et 9 mois. Le précédent record appartenait à Silvio Piola, qui en 1950, qu'il avait établi en 1950-51, lorsqu'il avait 38 ans et 4 mois. Donc Ibra a donné vraiment à secouer le Rossoneri. Il devait se limiter à jouer seulement ces six derniers mois, mais en ayant monté d'être encore indispensable, le club milanais lui a proposé de rester une saison de plus pour un salaire de 7 millions d'euros.
Eh ben dis donc, il a vécu une 12e, une 13e jeunesse cette saison, Ibra.
Non, mais on a rarement vu un joueur de plus de 35 ans faire des performances aussi régulières, parce qu'il y a effectivement les 10 buts, mais il y a aussi beaucoup de passes décisives. Il sait se mettre aussi au service du collectif, il n'hésite pas à aller un peu organiser la manœuvre près de ses milieux un peu plus. C'est pas uniquement quelqu'un qui reste devant. Et il a aussi fait remonter le niveau de joueurs qui avaient un petit peu mal commencé leur saison. Je pense notamment à un joueur qu'on connaît bien à RFI, c'est Franck Caissier, l'Ivoirien, qui a beaucoup mieux terminé qu'il n'avait commencé. Et donc le Milan a tout intérêt à le garder. C'est tout bénef. Et en plus, c'est une exposition. C'est quelqu'un qui prend la pression des médias, qui prend la lumière et donc qui laisse un petit peu de la latitude aux autres joueurs pour s'entraîner tranquillement, pour se préparer au calme. C'est extraordinaire pour une équipe. C'est un professionnalisme aussi, une capacité à se préparer, à être en forme au bon moment qui est exceptionnelle. Et on se rappelle à quel point aujourd'hui un joueur comme ça manque au PSG, c'est-à-dire un leader de classe mondiale, non seulement par ses performances, mais aussi par son professionnalisme. Et ça, ils en ont par leur performance. Aujourd'hui, ils n'en ont plus tellement par le professionnalisme. Et donc, Zlatan est, pour le Milan, c'est pas un cadeau du ciel, mais c'est une bénédiction d'avoir ce joueur, même à 38 ans et 9 mois.
Et grâce à Zlatan, entre autres, le Milan est qualifié pour la Ligue Europa pour la troisième année de suite. On a presque envie de dire qu'on veut les revoir en Ligue des Champions, ces Rossoneri.
Oui, mais alors, enfin, pour ça, il va quand même falloir que le Milan AC se mette au niveau des équipes qu'il y a devant, et ça va être très difficile. Il va falloir recruter, parce que autant il peut bonifier, moi je suis d'accord avec ce que dit Patrick, bonifier le niveau collectif et permettre à certaines individualités de grimper d'un cran. Autant il peut pas tout faire tout seul sur 38 journées, et on a aussi vu la saison du Milan AC, c'est pas uniquement la deuxième partie de saison, c'est aussi la première, et là on a vu toutes les lacunes de l'équipe derrière, au milieu de terrain. Je fais exception de Bennacer qui lui a un peu surnagé au milieu des autres, mais globalement c'est une équipe qui est, plus on recule sur le terrain, plus elle est friable.
C'est sûr.
Et il va falloir se renforcer pour retrouver ce niveau-là.
Alors un mot sur le rival de l'AC Milan maintenant, sur l'Inter. L'Inter qui a terminé deuxième, saison plutôt réussie du coup, mais ça n'a pas empêché Antonio Conte de critiquer fortement sa direction après l'ultime victoire contre l'Atalanta Bergame. 2-0 c'était ce week-end. On écoute Antonio Conte.
Il faut rendre hommage aux joueurs. 82 points, c'est beaucoup. Cela montre que nous avons bien travaillé. Cependant, je suis déçu de voir que l'Inter a été attaqué d'une mauvaise manière. Il y a eu des attaques sur les joueurs et sur moi. Je n'ai pas trop aimé. D'autant que j'ai senti peu de protection de la part du club. Ceci étant dit, nous sommes devenus plus solides et plus forts. On savoure ça, les joueurs et moi. Avec tout le respect que j'ai pour les autres, on savoure. Nous avons travaillé, on mérite nos 82 points. Mais je le répète, Ils ne veulent rien dire, car ceux qui gagnent sont ceux qui écrivent l'histoire. C'est un bon total, car on revient de plusieurs saisons où l'écart des points était grand.
Matteo, comment était perçue cette sortie de Conte en Italie ?
De manière très négative. Il n'a pas eu le soutien de l'opinion publique qui a critiqué ses déclarations. On n'a pas vraiment compris à qui il s'en prenait, certainement aux dirigeants.
À Ausilio peut-être, non ?
Pardon ?
À Ausilio ?
Oui, Pietro Ausilio, c'est la cible préférée d'Antonio Conte, parce que peut-être il voulait qu'à sa place, il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelle Paragne, qui travaille actuellement à Parme. Et ça, c'est une autre histoire. De toute façon, on a vraiment pas compris pourquoi s'en prendre à des dirigeants et surtout un club qui s'est amené à dépenser plus de 200 millions d'euros sur le mercato. Donc, vraiment, c'est presque inouï d'avoir entendu ces mots de la part d'Antonio Conte et surtout cette attaque au président chinois Zhang, qui est quelqu'un qui lui assure un cachet annuel de 12 millions d'euros. Donc, il n'y a vraiment pas de respect. L'opinion publique est nettement contre Antonio Conte.
Oui, mais moi je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis, Matteo, parce que d'abord être entraîneur, c'est pas uniquement gagner un bon salaire, il faut aussi que footballistiquement tu aies de bonnes conditions. Et si tu prends cette année l'Inter, c'est une équipe qui a recruté pour cher, mais dont le niveau de jeu était pas dingue. Ils finissent deuxième avec 82 points, et t'as quand même une sensation quasiment de saison un peu mitigée, parce que t'as pas vu grand chose. En tout cas, sortie de Lukaku, Lautaro, le niveau de jeu de l'équipe s'est un peu amélioré avec Eriksen et encore. Et au final, Conte, il a quand même subi beaucoup de griefs cette saison. Il a été accusé de beaucoup de choses. Il est tenu pour responsable de la brouille entre Brozovic et Lukaku. Il y a eu une histoire d'email. Il a quand même reçu des menaces de mort. Donc, moi, je ne dis pas qu'il a tout bien fait et qu'il a raison comme ça d'exposer ce qui se passe en interne comme ça devant la presse. Mais il a peut-être aussi des raisons de mettre un peu la pression, parce qu'il en a pris plein la gueule. Il méritait, je pense, un autre traitement compte tenu de la sérénité qu'il a ramené et de ce qu'il incarne en tant que manager.
Moi je pense qu'en fonction des moyens, il espérait avoir un peu plus de profondeur de banc et de choix à certains postes qui lui a pas mal manqué, surtout après la reprise. Ensuite, c'est quelqu'un qui a tendance souvent à un peu ruer dans les brancards pour mettre la pression sur ses dirigeants. C'est pas quelqu'un qui est facile à gérer. Et puis c'est quelqu'un qui a tendance à être un peu parano, parfois avoir souvent des complots contre lui et contre son équipe. Là, il les voit chez ses dirigeants. Bon, c'est libre à lui, mais ça m'étonne pas tant que ça finalement. C'est bien dans le personnage.
Matteo, très rapidement, quel peut être l'avenir de l'Inter si finalement Antonio Conte s'en va ?
Bah alors là, on pourrait vraiment ouvrir et envisager pas mal de scénarios. Donc si Antonio Conte quittera l'Inter, le club milanais, on le sait bien, pourrait convaincre Max Allegri à s'asseoir sur le pont de Nerazzurri. Et donc on aura droit à une sorte de remake de ce qui s'était passé en 2014 lorsqu'Allegri avait pris la place de Conte à la Juve. Attention alors aussi à ce qui pourrait se dérouler déjà vendredi prochain, car si la Juve sera éliminée en Ligue des Champions, Maurizio Sarri pourrait sérieusement être limogé. Il y en a qui affirment qu'il n'y aura pas de doute à ce propos. Et si Sarri perd son poste, rien n'exclut un retour d'Antonio Conte à la Juve, qui à la fin s'est marié et reste marié avec une telle dame, c'est-à-dire la vieille dame Bianconera, qui est toujours dans son cœur.
Agnelli serait d'accord à ce qu'il revienne ?
Absolument oui.
Bon, on suivra tout ça avec attention, Matteo. Je suis désolée, je suis obligée de vous laisser, il faut qu'on passe à la suite. Merci beaucoup et à très bientôt dans Radio Foot, évidemment.
Merci à vous.
On va passer à la Ligue Europa que l'Inter joue demain soir.
Inter en route pour les huitièmes de finale de cette Ligue Europa. Le cinquième but de Manchester. Oh, le bijou pour le FC Séville.
Qui réussit l'insurmontable. Tom Rossi, la Ligue Europa reprend donc demain avec un format très particulier.
Et un format double. Marie-Amélie, on a le droit pour finir ses huitièmes de finale. Il va y avoir des matchs retour à disputer, 6 au total, notamment Manchester United face au club autrichien de Linz, après le carton des Red Devils à l'aller. Mais parmi ces huitièmes de finale, il y en a deux qui n'ont pas eu de match aller. Il s'agit de deux duels italo-espagnols et peut-être les plus belles affiches sur le papier. Inter Milan face à Retafe, tombeur de l'Ajax Amsterdam en 16e de finale, et AS Roma, FC Séville, l'une des équipes en forme de la fin de saison en Italie, contre le club le plus titré de la compétition. Deux rencontres qui se dérouleront donc sur un match sec en Allemagne. C'est là que se retrouveront ensuite les 8 qualifiés pour les quarts de finale, un Final 8 de la Ligue Europa à huis clos qui débutera lundi prochain. La finale, ce sera le 21 août. Voilà donc pour le programme complet. Naïm, si vous ne deviez choisir qu'un match de ces 8e, ce serait lequel ?
Bah, Séville-Roma quand même, c'est l'affiche la plus alléchante. Après, ouais, je jetterai aussi un œil peut-être sur Inter-Retafe, parce que Retafe, qui s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions, a quand même fait une saison plus que correcte en Espagne. Mais c'est vrai qu'en plus, la Roma, parmi les équipes qui sont favorites, on va dire la Ligue Europa, l'Inter, Manchester United, Séville, c'est la seule qui est pas qualifiée pour la Ligue des Champions. Donc finalement, comme via le championnat, elle n'y est pas arrivée, si elle gagne la Ligue Europa, elle a un accessible pour la Ligue des Champions, c'est un règlement. Donc, c'est peut-être l'équipe qui, elle, va, a une vraie carotte à jouer sur cette compétition. Évidemment, gagner un titre européen, c'est toujours important, mais sur une saison comme ça, sur le format que vous avez décrit, le FC Ball peut gagner. Copenhague, pareil, hein. C'est sur un match à l'extérieur, tout peut arriver. Hein.
Copenhague, faut déjà qu'il passe.
Oui, mais ils peuvent passer.
Ils peuvent passer, oui. C'est contre Istanbul, Başakşehir. Moi, c'est pareil. Je vais suivre avant tout ces deux duels italo-espagnols. Mais sur l'ensemble de la compétition, c'est plutôt Manchester United qui m'excite. Puisque, bon, là, ils sont sûrs d'être qualifiés. Ils ont gagné 5-0 contre Linz à l'aller. Mais c'est par la suite que je pense qu'ils peuvent décrocher encore un trophée dans cette compétition où, déjà sous les ordres de Mourinho et avec un certain Zlatan en pointe, ils l'avaient emporté.
En 2017.
Voilà, contre l'Ajax. Donc, ça m'intéresse de les voir. Je pense qu'ils peuvent aller chercher quelque chose sur la lancée de leur très bonne fin de saison en Première Ligue.
Elle reste enthousiasmante de façon générale cette compétition, la Ligue Europa ?
Oui, oui, oui. Moi je suis pas d'accord pour qu'on dise c'est une coupe en bois. Alors c'est vrai que sur la phase de poule, vous avez des équipes qui sont nettement inférieures à ce qu'on voit en Ligue des Champions, mais c'est une compétition où il y a du spectacle, on voit des buts, et puis on est un peu moins dans le calcul, parce que la plupart du temps, ces équipes-là sont plus en difficulté en championnat que les équipes qui jouent à Ligue des Champions. Donc généralement, il y a un vrai attrait à gagner une compétition. On veut se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, parce que souvent, via le championnat, on n'y est pas. Donc moi, je la trouve très intéressante, cette compétition.
Moi, je pense que cette année, elle va pâtir du fait que la Ligue des Champions va se terminer après la fin des championnats et que ce sera vraiment un peu un all-star team, quoi. Enfin, ce sera les équipes souvent victorieuses de leur championnat les unes contre les autres, alors que la Ligue Europa, forcément, c'est un petit peu moins reluisant pour elle au niveau du palmarès. Donc, ce que dit Naïm est vrai, mais cette année, je pense qu'elle va quand même pâtir de l'ombre de la Ligue des Champions, puisqu'elles auront lieu vraiment sur un calendrier très proche.
Tu sais, on disait pareil de la fin des championnats, que ça allait pas être terrible, que le niveau physique ceci, que les joueurs seraient plus dedans, qu'ils auraient peur, et au final, je pense que dans la plupart des championnats qui ont repris, on a vu des belles affiches.
Et je crois qu'on a tellement faim de foot que finalement on regardera tous les matchs, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Hein.
Si, on avait fait un foot aussi.
On a regardé les deux finales de Coupe française.
Hein, elle est intéressante parce que l'Inter, qui avait la place peut-être pour être champion sur la fin de saison, il n'y est pas. La Roma n'est pas qualifiée pour le championnat, le FC pour la Ligue des Champions. Le FC Séville, qui reste toujours une équipe dont il faut se méfier, la preuve, c'est l'équipe qui l'a gagné le plus. Patrick a raison sur Manchester United. Vous avez des équipes comme Leverkusen, comme Francfort, qui ont fait des belles fins de championnat en Bundesliga.
Wolverhampton aussi.
Voilà, Wolverhampton qui n'est pas qualifié pour les places européennes aussi. Donc vous avez plein d'équipes qui ont encore quelque chose à jouer finalement.
Bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Naïm Moniol et merci.
De rien, Marie-Mélie.
Merci aussi à Tom Rossi qui m'a aidé à préparer cette émission. Et puis évidemment, je n'oublie pas nos réalisateurs Laurent Salerno et Pierre Cognard. Demain, vous retrouverez Christophe Jousset dans Radio Foot. Très belle soirée sur RFI.